7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, une question qui vous concerne peut-être si vous êtes candidat aux études en France. Faut-il augmenter les frais d'inscription dans les universités françaises pour les étudiants non européens, hors Union européenne si vous préférez? Un rapport remis au Premier ministre il y a quelques semaines répond clairement oui, avec des simulations qui font l'effet d'une petite douche froide. 6 000 euros pour une année de licence, 12 000 euros pour une année de master. Les étudiants extra-communautaires doivent-ils payer quasiment le prix coûtant pour étudier en France, à l'instar du Royaume-Uni? Quand on sait que les universités françaises sont parmi les moins chères des pays développés et qu'elles souffrent d'un manque de moyens financiers, évidemment, le sujet est sensible. En Europe, certains pays comme le Royaume-Uni renflouent leur budget grâce aux étudiants extra-communautaires, mais la France ne risquerait-elle pas de se priver de talents? Finalement, nous allons en débattre avec nos invités, et puis bien sûr les voisins, que vous soyez candidat aux études en France ou ancien diplômé de l'Hexagone. Appelez-nous tout de suite pour réagir, pour participer à l'émission. 33 1 84 22 71 71 dans le studio de RFI pour discuter. Antoine Grassin, directeur général de Campus France, c'est l'agence pour la promotion chargée de l'enseignement supérieur à l'étranger. Bonjour Antoine Grassin.
Bonjour.
Jean-Loup Salzmann, vous êtes le président de la conférence des présidents d'université, donc le patron des présidents d'université, mais également vous-même président de l'université Paris 13 en Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Loup Salzmann.
Bonjour, mais patron est un petit peu vaste.
Oui, vous n'aimez pas le mot. Yves Poilane, président de la commission internationale, là pour la conférence des grandes écoles et directeur également d'une grande école, enfin d'un groupement de grandes écoles, Télécom Paris Tech. Bonjour Yves Poilane.
Bonjour.
Soyez le bienvenu tous les trois. Je vous rappelle le numéro. Inscrivez-vous, appelez dès maintenant. Donc, faut-il augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne? Si vous êtes en Afrique subsaharienne, le sujet vous touche aux premières loges. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages en rafale postés sur le fil Facebook. Diego à Conakry en Guinée. Vu la compétitivité au sein des universités de l'Union européenne, la France ferait mieux de se rendre plus attractive plutôt que d'augmenter ses frais d'inscription. Bah, la France arrive quand même en troisième position, Antoine Grassin, derrière l'Amérique,
Grande-Bretagne.
Bon, alors c'est difficile d'aller plus haut. David à Brazzaville, Congo-Brazza. Personnellement, je pense qu'il faut augmenter les coûts pour des raisons valables. Amélioration du système éducatif, construction de logements universitaires. Alors si toutes ces conditions sont réunies, je ne vois aucun mal à augmenter les frais d'inscription. Ou Malik à Dakar, augmenter les frais d'inscription pour les étudiants non européens est une discrimination contraire au principe de la mobilité étudiantine. Cette éventuelle augmentation pourrait en fait décourager plus d'un, surtout pour étudier en France. Des garanties financières exorbitantes sont déjà demandées aux étudiants étrangers. Garanties financières, on peut les rappeler, Antoine Grassin, quand un étudiant postule pour avoir un visa.
Je ne crois pas que ce soit des garanties financières, c'est un minimum de ressources, mais ça c'est une réglementation concernant les visas.
Il faut justifier de combien sur son compte en banque à l'heure actuelle.
Il faut justifier de ressources mensuelles d'au moins 615 euros. Ouais. Qui le chiffre est facile à retenir pour certains, c'est le chiffre des le premier niveau de taux de bourse du gouvernement français.
Voilà. Alors, si les frais d'inscription augmentaient drastiquement, je vous ai donné des exemples tout à l'heure, dans quelle situation seriez-vous? Qu'en pensez-vous? Appelez-nous, que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71-71. Mais tout de suite, regardons le choix de la Grande-Bretagne avec notre correspondante Muriel Delcroix. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Muriel Delcroix, en Grande-Bretagne, les étudiants étrangers doivent payer des frais d'inscription plus importants que les étudiants britanniques et européens. Alors à combien s'élèvent généralement ces frais universitaires pour les non-européens?
Alors en moyenne, ces frais sont d'environ 16 000 euros par an, comparé à 12 000 euros par an demandés aux étudiants britanniques et européens. Mais selon le guide complet des universités pour l'année 2013-2014, ces étudiants non-européens peuvent avoir à payer jusqu'à 4 fois plus que les autres, car il peut y avoir de très grands écarts de tarifs selon les facultés. faculté et les cours proposés. Alors par exemple, si les frais pour des étudiants de premier cycle commencent à environ 10 000 euros, ils peuvent monter jusqu'à 48 000 euros pour un diplôme en médecine. Même chose pour des étudiants de troisième cycle ou de doctorat, dont les frais peuvent varier de 11 000 à 53 000 euros, ce qui est par exemple le montant que demande l'université de Queen Mary à Londres à des étudiants en médecine. Mais les frais quand même les plus élevés sont payés par ceux qui font des études de commerce, c'est à l'université très prestigieuse d'Oxford, qui demande, elle, plus de 56 000 euros par an pour obtenir un MBA, une maîtrise en administration des affaires.
Le fait que ces frais soient très élevés, voire exorbitants, décourage-t-il les étudiants étrangers ? Est-ce qu'on a noté une diminution de demandes de candidatures pour venir étudier au Royaume-Uni ces dernières années, Muriel ?
Eh bien, pas du tout. L'étude publiée par l'Agence britannique des statistiques pour l'éducation supérieure montre qu'en 2013-2014, le nombre d'étudiants étrangers a augmenté de 3%. Ils étaient donc l'an dernier 435 500. Les plus motivés sont les étudiants chinois, de loin les plus nombreux. Ils étaient près de 88 000 cette année-là, venus étudier dans les facultés. Après eux, on trouve des étudiants indiens qui étaient près de 20 000 à avoir choisi le Royaume-Uni. Et ils ne vont pas tous forcément à Cambridge ou Oxford, puisque c'est UCL, University College London, qui a accueilli le plus grand nombre d'étudiants, cette fois européens et non européens. Un engouement qui s'explique par l'excellente réputation des universités britanniques. Le Royaume-Uni est d'ailleurs la deuxième destination la plus populaire parmi ces étudiants derrière les États-Unis.
Bon, il faut dire aussi que langue anglaise oblige. Cette nette différence de traitement fait-elle débat en Grande-Bretagne ?
Mais en fait, Emmanuel, quasiment pas. Parce que bon, les étudiants étrangers acceptent ces tarifs, ils continuent à venir nombreux. Et en fait, ça arrange tout le monde, à commencer par les universités, parce que ça leur assure des revenus conséquents. Alors quand même, si le syndicat national des étudiants a critiqué une différence de traitement injuste et le fait que ces étudiants étrangers sont traités comme des vaches à lait. Mais il s'est vu répondre, ce syndicat, que les facultés britanniques font face à une concurrence internationale féroce pour attirer les étudiants étrangers. Et comme elles ne reçoivent pas d'aide du gouvernement, elles doivent demander une contribution plus élevée aux non-européens. Un coût élevé contrebalancé, selon elles, par le fait que les diplômes s'obtiennent plus rapidement entre 3 ans en moyenne au lieu de 4 ans aux États-Unis par exemple. Enfin, l'autre argument de poids, nous dit-on, c'est l'excellent rapport qualité-prix offert par les universités britanniques, puisque selon le ministère britannique pour l'innovation des entreprises, eh bien, les étudiants étrangers ont plus de chances de gagner des salaires plus élevés avec un diplôme obtenu au Royaume-Uni que s'ils étaient restés étudier dans leur pays.
Merci beaucoup Muriel Delcroix, vous êtes notre correspondante à Londres pour RFI. Dans quelques instants, réaction de nos invités dans le studio de 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Alors, réaction, peut-être d'abord Jean-Loup Salzmann, le patron des universités françaises, des présidents d'universités. La pilule est amère, on l'entend bien en Grande-Bretagne, mais elle se digère.
Alors, j'ai bien entendu ce qui se disait sur la Grande-Bretagne, mais il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, le modèle économique, entre guillemets, des universités et de l'enseignement supérieur n'a rien à voir avec celui que nous avons en France, et en particulier les étudiants anglais, comme l'a dit votre reportage, payent le coût de leurs études, même s'il y a une part de subvention du gouvernement. Alors, si on en revenait à la situation française et au grand principe, le grand principe, c'est que l'enseignement supérieur est quasiment gratuit en France. Je dis quasiment car il y a des droits d'inscription, mais qui sont somme toute modestes. Et au nom de quoi ferions-nous une discrimination entre des étudiants français, des étudiants belges, des étudiants africains ou chinois ?
Quand vous entendez ça, vous dites en France, ça n'est pas possible.
Je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis que ce n'est pas dans
l'esprit français.
L'esprit français, l'esprit universitaire français. L'esprit universitaire français, c'est d'accueillir beaucoup de gens. Les gens qui sont au niveau et qui veulent suivre des études. On a une tradition française d'universalisme, c'est-à-dire de libre circulation, depuis le Moyen-Âge, la circulation des talents est la règle. Et la règle en France et la règle à l'université.
C'est ça, donc une discrimination qui serait, comme le disait Malik à Dakar, finalement contraire au principe de la mobilité estudiantine.
Tout à fait. Deuxièmement, on a un rôle sur la scène internationale, qui est la francophonie, qui est le rayonnement de la France, qui est la formation des élites d'un certain nombre de pays ou d'un grand nombre de pays. Ces gens qui viennent en France, ensuite, quand ils retournent dans leur pays, sont les meilleurs ambassadeurs de la culture, de la civilisation française, par le français.
Vous faites allusion donc à plus de 40% des étudiants étrangers en France qui viennent du continent africain.
Oui, mais pas seulement. Par exemple, je veux vous donner une anecdote. La présidente de la République de Corée a fait ses études à Grenoble. Elle parle français. Elle est très francophile et les relations entre la France et la Corée en tirent un grand avantage.
Très honnêtement, si l'année de licence était à 6000 euros pour cette femme-là à l'époque, elle serait venue quand même.
Je ne sais pas, je peux pas vous dire, je n'étais pas... Bon, il faut dire que c'est un cas un petit peu particulier.
Bon. Mais non, mais je voudrais... grandes écoles, peut-être, Yves Poilane, le cas de la Grande-Bretagne là, qui était évoqué, pour vous, c'est souhaitable en France?
Bah écoutez, c'est... D'abord,
il n'y a pas
c'est...
que la Grande-Bretagne, il y a la Suède, il y a le Danemark...
Oui, il y a beaucoup de pays qui pratiquent des tarifs différenciés. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais en tout cas, c'est riche d'enseignement. Tout d'abord, je pense que ça permet d'évacuer assez vite la question de savoir si la hausse des tarifs aurait un impact sur l'attractivité en volume pour les étudiants étrangers. Parce que je pense que la France...
Est-ce que ça décourage ou pas ?
Moi, je pense que ça ne décourage pas. Parce que la France est un pays très très attractif pour tout un tas de raisons. Il a une sphère d'influence, il a une qualité de vie, il a des valeurs qui sont reconnues universellement, enfin mondialement. Et je pense que la hausse n'aurait pas d'impact sur l'attractivité. Ça peut avoir un impact si on n'y prend pas garde, ça peut avoir un caractère discriminant. D'ailleurs, en fait, il suffit pas simplement de s'intéresser au volume, il faut après regarder l'origine. Nous avons l'habitude de dire à la conférence des grandes écoles que toute hausse des frais de scolarité, et en particulier pour les étudiants non européens, doit s'accompagner d'une politique de bourse active. C'est-à-dire qu'il faut réinvestir une partie, ça fait partie de nos recommandations, ça figure d'ailleurs dans le rapport
dans
de
le
France
rapport
Stratégie, réinvestir une partie de cet argent dans des bourses,
notamment de permettre une gratuité totale à plus d'étudiants
étrangers. Une gratuité totale à plus, je ne sais pas si c'est à plus, mais en tout cas à ceux qui en ont vraiment besoin.
Et c'est passé de 9 000 à 30 000 étudiants étrangers qui payeraient zéro.
Ça, c'est les chiffres de France Stratégie. Enfin, je pense qu'ils sont intéressants, on pourrait en avoir d'autres, mais en tout état de cause, on pourrait augmenter effectivement, et je pense en particulier, il est clair que toutes les zones du monde, toutes les régions du monde ne sont pas équivalentes en termes de PIB par habitant, en termes de pouvoir d'achat, et que de ce point de vue-là, une politique de hausse des frais accompagnée d'une politique de bourse pourrait s'avérer non discriminante, notamment pour les pays d'Afrique subsaharienne. Dernière chose, puisque vous me posiez la question de savoir qu'est-ce que je retiens du cas anglais, il a été dit par votre correspondante que à partir du moment où on conçoit la formation comme un investissement et qu'il y a un retour sur investissement, c'est-à-dire qu'à la sortie le diplôme garantit dans les faits un emploi.
Oui, ça dépend quel diplôme.
C'est quand même beaucoup plus facile de justifier un tarif, de justifier un prix à partir du moment où les gens sont assurés d'avoir un emploi à la sortie. Alors d'abord, ça permet mécaniquement éventuellement de s'endetter au besoin pour rembourser, et de toute façon ça donne de la valeur à la formation qui est dispensée.
Voilà ce que je retiens. Ça serait d'autant plus acceptable d'augmenter, par exemple, les tarifs pour les étudiants non européens, pour des études de médecine, pour des études scientifiques.
En tout cas, alors encore une fois, moi je parle de ma fenêtre de vice-président de la conférence des grandes écoles. On connaît les taux d'employabilité des diplômés des grandes écoles françaises à 6 mois. On connaît les salaires moyens d'embauche. Je dirais qu'ils sont de l'ordre de 35 000 euros par an. On sait qu'à 6 mois, 90% de nos diplômés ont un emploi. Donc je veux dire, à partir de là, ça donne une idée, si vous voulez, de l'équation économique qui permettrait effectivement, tout à fait légitimement, de demander aux étudiants non européens de payer, de contribuer au coût de leur scolarité.
Antoine Grassin, vous êtes le vrai spécialiste des étudiants étrangers en France, puisque vous êtes le patron de Campus France, qui est l'agence de promotion de l'enseignement supérieur à l'étranger. Quelle est votre position ?
Alors, je ne sais pas si je suis le spécialiste. En tout cas, c'est vrai que Campus France les voit, les reçoit, les entend et les observe. Moi, je rejoins assez largement ce que dit Jean-Louis Sassmann sur les raisons qui font qu'en France, c'est difficile de basculer sur le système anglais, parce qu'on a effectivement cette tradition, un, de traiter tout le monde de la même façon, et ça c'est vrai, deux, d'avoir un accès à l'enseignement supérieur gratuit. Ce que je voudrais dire en complément, c'est que ça n'est pas le cas unique de la France. Souvent, on entend dire qu'il n'y a que la France. Non, non. L'Allemagne, la Finlande, par exemple, sont très attachés à la gratuité de l'enseignement supérieur, et ce sont des pays où c'est encore vraiment une règle, et donc il y a un égal traitement aussi dans ces pays.
Globalement, la tendance, c'est vrai que l'Allemagne a quand même une tendance inverse du reste de l'Union européenne, a beaucoup baissé ses frais de scolarité ces dernières années, mais sinon la tendance est quand même un peu à la hausse un peu partout, dans les universités qui sont à sec.
Moi je voudrais peut-être dire un contrepoint à ce que M. Poilane a dit. D'abord, le retour sur investissement, on a vu aux États-Unis que le gonflement spéculatif de la dette des étudiants non seulement pose des problèmes parce qu'ils ont de plus en plus de mal à trouver un emploi avec leur investissement, mais en plus pose un risque systémique sur le système de crédit américain.
Mais vous parlez d'endettement sur des frais de scolarité à 50 000 euros. On ne parle pas du tout des mêmes sommes.
S'il vous plaît. Et deuxièmement, je pense que, et là je parle pour les universités, nous donnons la même formation que certaines grandes écoles avec les mêmes taux d'employabilité avec les mêmes salaires à l'embauche pour des frais de scolarité ridiculement bas.
Alors, un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Moïse est en ligne à Paris. Bonjour Moïse.
Bonjour Emmanuel.
Vous souhaitez poser une question ou interpeller nos invités, je crois. Nous vous écoutons.
Oui, la première question, c'est de voir à qui profiterait cette éventuelle augmentation et qu'est-ce que les étudiants non communautaires aussi pourraient gagner en retour. Et pourquoi une pareille discrimination à l'heure actuelle, bien évidemment, à l'heure de la mobilité
Alors,
ou la France voilà.
Très bonne question. Nos invités vous répondent très rapidement avant le flash et sinon après le flash. Qu'est-ce que ça rapporterait aux universités déjà?
Alors, il faut dire vraiment quelque chose de très clair. La grande différence entre les universités françaises et les universités anglaises, outre le fait que les inscriptions sont très basses, c'est que nous n'avons pas les mêmes services offerts aux étudiants. Et c'est sûr que on pourrait, et la régulation, la législation, la réglementation nous le permet, faire payer des gens pour leur donner quelque chose en échange qu'ils n'auraient pas autrement. Et comme l'a dit un de vos interlocuteurs dans les premières questions que vous avez posées, je veux dire, si on pouvait offrir un package logement, restauration, cours de français, rattrapage scolaire, environnement
donc
culturel.
Vous dites oui, on pourrait augmenter les frais à condition qu'on propose un service spécifique en échange de ces frais supplémentaires.
Et on en a déjà le droit. Et c'est tout à fait possible. Ce qui ne serait pas normal, c'est de faire payer pour la même chose bien plus cher à des étudiants non communautaires qu'aux étudiants français. C'est mon opinion et c'est celle de ma
conférence. L'avantage pour les étudiants extra-communautaires, la question de Moïse, qu'est-ce que ça rapporterait aux étudiants extra-communautaires? Rien, ils perdraient de l'argent, ils dépenseraient
mais
ils auraient peut-être un service
si
de qualité supplémentaire.
Voilà, si on leur donne un service en échange de... Prenons un étudiant chinois, si on lui donne des cours de français accélérés, si on lui donne des cours de civilisation française, si on lui donne un logement et si on lui donne un environnement satisfaisant, je pense que si le prix est justifié, ça se justifie.
Bon, sur l'idée de la discrimination que soulevait Moïse, pourquoi ces étudiants-là, sous prétexte qu'ils sont d'une origine géographique différente, de l'autre côté de l'Union européenne, boum, les tarifs augmentent, x10. C'est ça, la question qui est posée.
Vu de notre fenêtre, un des fondements de cette différence de traitement est à chercher dans l'origine des financements de nos établissements publics, qui a des proportions variables, mais qui dépasse largement les 60%, et pour certains établissements jusqu'à 80%, est financé par l'impôt. Donc il n'est pas non plus complètement... quand on met de côté le principe qui a été évoqué par Jean-Loup, qui est effectivement de dire la France a eu la pratique de tarifs identiques, et se veut une terre d'accueil, si on met de côté ce principe-là et qu'on regarde l'équation économique, je dirais aujourd'hui, il y a des étudiants français et par extension européens qui ne payent quasiment rien pour des formations qui sont payées par le contribuable français et des étudiants non européens qui finalement, au même tarif, ont des formations payées par le contribuable français. Donc à un moment donné, on peut avoir cette lecture-là que cette différence de traitement est liée justement au caractère de financement public
étudiant
à manipuler avec précaution, mais en tout cas, c'est un des fondements aujourd'hui de l'argumentation de ceux qui prônent des tarifs différenciés, parce qu'il y en a qui...
Et je pense tarifs différenciés qui équivaudraient en fait au prix coûtant, à ce que l'étudiant coûte.
Alors effectivement,
c'est ça.
Alors au prix coûtant ou pas, parce qu'on ne part pas de zéro. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui on a de nombreux étudiants extra-communautaires dans nos établissements, et aujourd'hui ces étudiants extra-communautaires, que ce soit dans les universités ou même dans les grandes écoles, il est très rare de leur faire payer des tarifs différenciés. Donc je veux dire...
Dans les grandes écoles, c'est pratiqué là déjà, mine télécom, des frais de scolarité qui ont été multipliés par 4 pour les étudiants hors Union européenne.
On est à 4000 euros.
Validé par le ministère du redressement productif.
Absolument,
on est
assez fiers d'avoir eu un arrêté qui a été signé par Arnaud Montebourg qui effectivement instaurait des tarifs différenciés pour les étudiants européens et non européens, donc 2000 euros pour les étudiants européens et 4000 euros pour les étudiants non européens.
Donc on y arrive pour les universités, peut-être ou pas, on continue le débat, vous restez avec nous tous les trois, Jean-Loup Salzmann, Yves Poilane, Antoine Grassin, quelle attractivité française pour les étudiants non européens si les frais d'université venaient à augmenter comme le préconise donc un rapport remis au Premier ministre il y a quelques semaines, vos réactions, vos témoignages, surtout n'attendez pas la fin de l'émission, vous soyez déçus. 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes, juste après le flash sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins, quelle attractivité française pour les étudiants non européens si les frais d'université venaient à augmenter, comme le préconise un rapport remis au Premier ministre il y a quelques semaines. 6 000 euros pour une année de licence, 12 000 euros pour une année de master. Ça fait un choc dans des universités publiques, autant dire une révolution culturelle qui ne concernerait pas les étudiants français, ni ceux de l'Union européenne. On en discute avec nos invités, Antoine Grassin, directeur général de Campus France, l'agence de promotion de l'enseignement supérieur à l'étranger que connaissent bien nos auditeurs, Jean-Loup Salzmann, président de la conférence des présidents d'université, et Yves Poilane, président de la commission internationale de la conférence des grandes écoles et directeur de Télécom Paris Tech. Vous nous disiez juste avant le flash d'ailleurs, Yves Poilane, que dans les grandes écoles, on a déjà commencé à pratiquer des tarifs différenciés pour les étudiants hors Union européenne. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un auditeur qui nous appelle de New York. Bonjour Abdou.
Bonjour Emmanuel.
Abdoul, pardon, j'écorche votre nom. Quel courage de nous appeler de si bon matin à New York.
Tout à fait.
Nous vous écoutons.
Bon, moi je suis étudiant ici à New York en communication. Bon, c'est presque ma dernière année, mais je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Car ça coûte extrêmement cher. J'ai été obligé d'arrêter pendant tout un semestre pour travailler afin de pouvoir économiser un peu d'argent et pouvoir payer mes études.
Bon, très cher, c'est-à-dire vous payez combien cette année, Abdoul, à New York?
Depuis que je suis devenu résident, j'ai payé un peu moins cher, mais c'est toujours cher parce que je peux payer jusqu'à 1200 dollars par semestre.
Par semestre?
Ouais.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette éventualité? Alors vous payez cher, mais tout comme les Américains, hein, il n'y a pas de lien avec votre origine géographique, Abdoul. Je ne sais pas d'ailleurs d'où venez-vous, de quel pays?
Je suis originaire de la Mauritanie.
D'accord. Comment vous réagissez par rapport à ce débat-là en France? Qu'est-ce que vous souhaitiez apporter comme contribution?
Je sais quand même que la décision n'est pas encore prise, mais que je n'ai pas encore étudié en France, je n'ai jamais étudié en France, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont étudié en France. Et vu ce qu'ils ont pu accomplir grâce à leurs études, je dirais que c'est un bon système qu'ils ont là-bas. Mais.
Pourquoi vous avez fait le choix des États-Unis, vous? Pourquoi vous n'êtes pas venu en France, justement, puisque vous dites que c'est rudement dur pour vous financièrement à New York? Vous savez, il y a des masters de communication en France. Hein.
Moi, j'avais fait deux demandes, la France et les États-Unis. Ça n'a pas marché avec la France.
Vous n'avez pas obtenu votre visa, c'est ça?
Tout à fait. Et les États-Unis, comme je voulais continuer mes études en anglais, donc c'était plus favorable pour moi.
Là, effectivement, on n'enseigne pas encore complètement en anglais dans les universités françaises.
Pas tout à fait, mais vous savez...
Jean-Louis Salzmann, le président des présidents d'université.
La nouvelle loi sur l'enseignement supérieur nous a donné un petit peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir enseigner dans d'autres langues que le français, pour reprendre.
Antoine Grassin, sur les visas étudiants, vous voulez rebondir, patron de Campus France, pour cet auditeur qui a choisi les États-Unis, finalement, faute de visa étudiant pour la France.
Ça montre effectivement les limites d'une politique de visa et ses conséquences. On voit très bien là que, bon, pour des raisons X, Y que je connais pas, parce que les visas, c'est une affaire d'autorité consulaire et pas de Campus France, tout de même, ce visa n'a pas été accordé. Donc effectivement, c'est un étudiant qui est parti aux États-Unis.
Mais dans les conditions d'accueil que la France fournit aux étudiants étrangers, je pense qu'il y a des marges d'amélioration notables, et je suis c'est vraiment un euphémisme, et en particulier sur les visas, mais aussi sur les délivrances de titres de séjour, mais aussi sur ce qu'on appelle les guichets uniques dans les universités. On a en France, bien que ce soit amélioré, hein, on a quand même abrogé la circulaire Guéant et on a fait quelques avancées sur les visas pluriannuels, mais je pense qu'on a des gros efforts à faire en termes de qualité d'accueil, en termes de qualité d'accueil administratif, que ce soit dans le pays d'origine, que ce soit en France. Et moi, je plaide pour que ce soit les universités qui soient à l'origine du choix des étudiants et non pas les consulats.
Mmh. Alors ça, c'est un autre sujet, mais si on augmentait, si on faisait des tarifs différenciés pour les non-européens, on pourrait aboutir à de meilleures qualités d'accueil, selon vous? Quelle est votre position, dans le fond, sur ce débat-là, Jean-Louis Salzman?
Non, mais moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis contre des droits d'inscription différenciés parce que ce serait discriminatoire et qu'on ait quand même liberté, égalité, fraternité en France. Et deuxièmement, je suis tout à fait pour offrir des services supplémentaires à toute une série d'étudiants contre rémunération parce que tout service supplémentaire mérite rémunération.
Et juste un mot pour compléter sur l'accueil. Lorsque Campus France a fait un sondage il y a un an ou deux sur l'attractivité vue par les étudiants étrangers, il y a des choses sur lesquelles les étudiants sont très satisfaits, la valeur des diplômes, la qualité de l'enseignement, la vie quotidienne en France, mais d'autres sur lesquelles ils sont beaucoup moins satisfaits. Et plus de la moitié sont mécontents des procédures administratives. Je crois que là, il y a un signal très clair que nous avons, comme le dit Jean-Louis Salzman, du travail.
Oui, non. Par rapport au témoignage d'Abdoul, bon, tout d'abord, nous, côté Conférence des Grandes Écoles, on ne prône pas un modèle qui irait dans les excès qu'on a pu connaître dans les pays anglo-saxons et en particulier en Amérique. On a parlé de la bulle spéculative, de l'endettement des diplômés.
Les grandes écoles ont quand même beaucoup augmenté leurs tarifs ces dernières années.
Pour une formation qui coûte à peu près 15 000 euros par an, faire payer 2 000 euros, voire 4 000 euros aux étudiants, ça n'a rien de complètement scandaleux. Et on est loin des tarifs des grandes universités américaines où vous payez couramment au niveau master.
Non, mais on a beaucoup plus de ça dans les grandes écoles parisiennes, au top du classement.
Dans les grandes écoles de management en particulier.
HEC, c'est combien?
HEC, je ne veux pas dire de bêtises sur l'année à HEC, mais on doit certainement être aux alentours de 25 ou 30 000 euros par an pour le diplôme grande école. Mais il faut voir qu'ils sont aussi fondés sur des modèles d'affaires qui sont très différents. Et je voudrais revenir de 30 secondes sur cette question de modèle d'affaires. Finalement, cette question de la hausse des droits de scolarité, il faut la replacer dans un contexte plus général de ce qu'on appelle les modèles d'affaires ou les business models des établissements d'enseignement supérieur. On est quand même nombreux autour de la table à financer les grandes écoles et les établissements d'enseignement supérieur. Il y a l'État, il y a évidemment les étudiants, français, européens ou non européens, mais il y a aussi les entreprises qui peuvent participer au financement, les diplômés eux-mêmes. On a tous on développe tous des fondations, on développe le mécénat.
Oui, en France, c'est encore timide.
C'est timide.
Des anciens élèves.
HEC, vous parliez d'HEC tout à l'heure, on pourrait parler de l'école polytechnique. Ce que je voulais dire, c'était que pas d'excès comme aux États-Unis. En tout cas, c'est pas notre recommandation. Deuxièmement, on n'a pas évoqué le fait qu'on se situerait dans une perspective de croissance des flux d'étudiants étrangers. C'est-à-dire, comment rendre la France à un potentiel d'attractivité supplémentaire, et c'est pas les financements publics qui, aujourd'hui, dans le contexte budgétaire de l'État français, aujourd'hui, permettraient de le faire. Et troisièmement, vous parliez de la question de quel service. On l'a un peu esquissé tout à l'heure. Il y a des francophones. La France est un territoire d'accueil des étudiants francophones. On souhaite attirer des étudiants non francophones. On souhaite donc dispenser des cours en anglais. La loi d'aujourd'hui nous permet de le faire. Eh bien, offrons des cours de français langue étrangère aux étudiants non francophones pour que, à défaut de parler français en arrivant, ils parlent français en repartant.
À l'heure actuelle, la France accueille parmi ses étudiants étrangers 40% qui viennent, plus de 40% qui viennent d'Afrique, en comptant le Maghreb. On est bien d'accord. Est-ce que si on augmentait drastiquement les tarifs pour les étudiants non européens, on n'observerait pas finalement un changement radical d'origine géographique des étudiants?
Ça dépend du système.
Alors là, je vous lis par exemple un témoignage de Libreville, Gabon. Les étudiants étrangers sont financés par leurs parents. Si on a une augmentation, c'est François qui nous poste ça, ils seront asphyxiés et ils iront dans d'autres pays de l'Union européenne. Dommage pour la France comme pour eux. On donne la parole à un étudiant qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Didier est à Capskiring en Casamance, dans le sud du Sénégal. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel, vous allez bien? Je salue la commanderesse de monsieur qui est à côté.
C'est ça, vous saluez nos invités. Vous êtes le bienvenu, Didier. Donc vous avez un Master 2 de gestion à la Sorbonne, vous êtes revenu au Sénégal, c'est ça?
Oui, je suis revenu au Sénégal, oui.
Très bien. Et vous êtes revenu pour y travailler après votre diplôme ou pas?
Oui, je suis venu chercher d'abord du travail ici, et après je voulais créer mon cabinet de comptable.
D'accord.
Donc c'est pour cela que je suis revenu au Sénégal.
Ouais. Alors quelle est votre position? Vous avez donc bénéficié d'une formation en France dont vous êtes satisfait ou pas d'abord?
Oui, d'abord je remercie la France de m'avoir donné cette connaissance parce que déjà, depuis tout enfant, j'ai rêvé de faire de grandes études, donc j'avais choisi la France d'abord. Mmh. Oui, donc je pense que là, le fait d'augmenter les tarifs pour les étudiants non européens, par exemple, c'est-à-dire les Africains, surtout, mmh. Je pense que ça fera une traversée du désert pour certains, parce que je pense qu'il y a trop de brillants étudiants ici en Afrique qui voulaient poursuivre les études supérieures en Europe, surtout la France. Donc aujourd'hui, augmenter les tarifs, je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour eux. D'autant plus que le savoir n'a pas de prix, hein, la connaissance n'a pas de prix.
Vous voulez dire, n'est pas un bien marchand, c'est ce que vous voulez dire ?
Oui, voilà, merci, exactement. Mmh. Ouais.
Mais Didier, oui. Si les frais... vous étiez étudiant il y a combien de temps, là ? Il n'y a pas longtemps, hein ?
Non, pas longtemps, non.
Vous êtes rentré quand au Sénégal ?
Bon, ça fait maintenant 14 mois comme ça. Hein.
D'accord, et donc vous êtes fraîchement diplômé. Si les frais avaient été à 6 000 euros par an pour une année de licence, vous seriez venu quand même ou pas, Didier ?
Oui, franchement, pour dire la vérité, même si les frais étaient doublés ou bien triplés ou bien je ne sais pas quoi. Hein.
Il y a quand même des limites, non, quand même à votre budget, non ? Je ne sais pas.
Ouais, mais ça vaut le coup.
Qui a payé vos études, Didier ? C'est votre famille ?
Oui, non, ma mère surtout. C'est ma mère qui s'est sacrifiée pour payer mes études grâce à ses revenus. Mm. Donc, moi, si c'était à refaire, j'allais le faire, parce que d'autant plus que la connaissance n'a pas de prix.
Ouais. Antoine Grassin de Campus France.
Oui, non, j'aime beaucoup cette intervention parce qu'elle met le doigt sur un point qui est quand même important. C'est que, OK, en France, les études sont gratuites ou presque, à l'université en tout cas. Mais pour autant, le séjour coûte cher. Et là aussi, nous avons fait une autre enquête
sur on n'est pas logé nourri gratuitement,
l'aspect économique d'un séjour en France. Et on voit que pour les étudiants, c'est quand même une dépense qui est de l'ordre de 900 à 1000 euros par mois, une fois qu'il faut mettre les choses bout à bout. C'est pour ça, au passage, que les conditions de ressources, c'est pas complètement stupide.
Donc ça rapporte à la France plus d'un milliard
après,
et demi, ça,
alors
c'est
après,
ça
c'est de la dépense, effectivement, qui est injectée dans l'économie française.
Parce que ces étudiants étrangers consomment en
Mais,
France.
Ce sur quoi je vais insister, c'est qu'en fait, c'est déjà un coût pour l'étudiant. Et effectivement, 80% des étudiants qu'on a interrogés disent « oui, c'était lourd ». Et 40% disent « nous, on a fait des sacrifices, ou nous, mes parents, on fait des sacrifices financiers importants ». Et donc, c'est ça, je crois, qu'il faut prendre en compte. L'idée que le séjour en France soit complètement gratuit est vraiment à écarter.
Jean-Louis Salzman.
Alors, justement, je voudrais rebondir là-dessus. Parce que c'est vrai que ça coûte très très cher, indépendamment du prix de l'inscription, de faire des études en France. Et donc nous, les universités, on essaie de travailler avec les universités des pays francophones, bien entendu, avec l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, pour essayer de maintenir un maximum de formation dans le pays d'origine, d'essayer de donner des labels de qualité à ces formations. Et je voudrais, puisque je suis en direct à la radio, faire une petite page de publicité pour une initiative que l'on a lancée depuis maintenant 2 ans, qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes, qui est une popularisation justement des thèses faites dans les pays francophones. Et on organise cette année en France la finale internationale. Dans tous les pays francophones, il y aura des finales. Et le 1er octobre, tous les pays francophones et bien entendu les finalistes français se viendront à la Sorbonne pour pouvoir faire la finale internationale.
D'accord. Là, donc, vous nous faites du grand positivisme
absolument.
Dans les universités françaises, mais les profs le disent, il n'y a pas d'argent dans les universités, on ne peut pas faire de qualité dans les universités.
On fait de la qualité.
Les étudiants se plaignent. Le rapport remis au Premier ministre dit, si on fait des tarifs différenciés pour les étudiants non européens, ça nous rapporte 850 millions d'euros lissés sur les universités françaises.
Arrêtons de dire qu'on va financer les universités françaises en prenant l'argent des pauvres des pays pauvres, ou des riches des pays pauvres. Je veux dire, le problème du modèle de financement, comme l'a dit M. Poilane tout à l'heure, des universités, ne peut pas se résoudre en faisant payer les ressortissants des pays étrangers.
Poilane, là-dessus ?
Écoutez, faire payer les pauvres des pays pauvres, ça serait tout à fait... D'abord, ce serait techniquement difficile, et deuxièmement, ce serait, pour le coup, très, très discriminatoire. Faire payer les gens plus riches pour justement permettre de faire venir des gens qui n'ont pas les moyens par des politiques de bourse adaptées, ça c'est une politique sociale. Au passage, j'en profite pour signaler qu'on a augmenté à l'Institut Mines-Télécom les tarifs pour les étudiants non européens, mais on a aussi augmenté les tarifs pour les étudiants européens.
Je le redis.
Donc il faut savoir que de ce point de vue-là...
Ils ne sont pas seuls dans leur malheur.
C'est malheur, excusez-moi, quand on est, encore une fois, quand on est recruté en fin de scolarité à 40 000 euros par an, on peut se poser la question de savoir si vraiment on fait leur malheur en leur demandant 2000 euros.
En termes de salaire, vous
voulez dire. En termes de salaire, absolument.
Oui, c'est un bon calcul.
Et 2000 euros par mois, 2000 euros pour l'année, c'est à peu près le prix d'une paquet de
cigarettes. Quand on sort des grandes écoles, mais on n'est pas recruté au même tarif quand on sort des universités. Je vous rappelle le numéro de téléphone. Énormément d'auditeurs souhaitent s'exprimer sur le sujet. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Hortense nous appelle, elle est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Hortense.
Bonjour.
Emmanuel, Claire. Oui. Non, c'est Emmanuel. Voilà. Hortense, vous êtes une
mais
maman.
Emmanuel, bonjour, excusez-moi.
On est ravis de vous accueillir. Hortense, vous êtes une maman d'étudiante en France, c'est bien cela?
Voilà. Ma fille est étudiante à Lyon Lumière 2.
Mmh. Et félicitations.
Elle est en master économie. Comment?
Bravo déjà.
Ah oui, voilà, elle est adorable, ma fille, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vue, mais on n'avait pas le choix parce qu'elle a fait l'école française en Côte d'Ivoire déjà toute petite. Mmh. Donc elle est partie et en plus il y avait la crise en Côte d'Ivoire, c'était difficile pour elle de pouvoir être là. Bon, l'école, l'université ne coûte pas trop cher pour nous, mais le problème, c'est le prix, le coût qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a à côté, la chambre et tout le reste, c'est vraiment cher pour nous. Donc déjà, globalement, ça nous revient cher, même quand l'université n'est pas chère. Alors si c'est légitime que vous vouliez augmenter, parce que c'est normal que vous preniez soin de vos concitoyens, mais il faudrait penser un peu à nous aussi qui n'avons pas le choix et nous faire une marge quand même un peu sociale pour nos enfants. Et ma fille a des difficultés pour trouver un stage. Ça, depuis un moment, elle me dit qu'elle cherche, elle ne trouve pas un stage non rémunéré juste pour finir son master 1, mais c'est difficile. Mmh. Et elle est très fière de Lyon Lumière 2. Quand elle en parle, c'est vraiment avec beaucoup de fierté parce que les professeurs, elle me dit qu'elle voit ses professeurs sur les antennes de télé parfois à débattre des thèmes importants. Et ça, elle est très fière de fréquenter cette école-là et je souhaiterais qu'elle puisse terminer ses études en France.
Hortense, merci infiniment pour ce témoignage très précieux. Merci d'ailleurs aux autres auditeurs qui nous appellent depuis le début de l'émission. Je pense à Abdoul et puis on a eu également Didier. D'autres auditeurs souhaitent s'exprimer. Je voudrais aussi lire d'autres points de vue différents. Un internaute qui nous dit « L'Allemagne propose chaque année des milliers de bourses aux étudiants étrangers. La France voudrait augmenter ses frais d'inscription. Les ministres africains, certes, y enverront leurs enfants, mais moi et des centaines de mes camarades iront profiter des opportunités de bourse de l'Allemagne. » Vrai, faux? Le concurrent allemand
nous sommes bien nos concurrents allemands, nous travaillons beaucoup avec eux. Ils ont plus, le volume de bourses pour les étudiants étrangers est plus important, le montant des bourses est moins élevé. En fait, les bourses allemandes sont moins généreuses que les bourses françaises.
J'ajouterais peut-être que par le système de bourses, le pays, la France en l'occurrence, aurait tout à fait la possibilité d'orienter les flux d'étudiants, d'origine des étudiants, en considération de critères politiques, socio-économiques, etc. Donc aujourd'hui, je l'ai dit au début et je terminerai peut-être là-dessus, que la hausse ne se comprend que par une politique active de bourses. Et c'est vrai que le nombre de bourses est relativement faible. Les bourses Eiffel, dans le domaine des sciences de l'ingénieur, c'est 200 bourses par an. 200 bourses par an. Il y a à peu près, dans les sciences de l'ingénieur, il y a à peu près...
Sous-entendu quoi ? C'est pas assez ?
Mais c'est pas assez. Absolument, c'est pas assez. Et l'État aurait la capacité, moyennant la hausse des frais de scolarité pour les non-européens, mais une politique de bourse qui orienterait l'attribution des bourses en considération, y compris des écarts de PIB par habitant, y compris dans les pays non-européens, entre l'Afrique noire ou l'Asie, les pays émergents, l'État aurait tout à fait la possibilité d'augmenter les tarifs, de faire rentrer de l'argent dans les écoles et dans les universités qui en ont besoin, tout en maintenant une politique d'attractivité pour les étudiants, notamment de l'Afrique, qui effectivement n'ont pas en moyenne les revenus d'étudiants venant d'autres pays.
Toujours dans la concurrence internationale, un autre internaute, Chibi, qui est à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo, nous dit ça risque d'accentuer le fait que de plus en plus d'étudiants se tournent vers des pays comme la Chine, l'Inde ou même l'Afrique du Sud. Et ça, c'est en défaveur de la France, mais aussi de son économie, puisque lorsqu'un ingénieur, par exemple, fait ses études en France, il retourne dans son pays, il devient un agent exportateur de la technologie française, puisque c'est celle qu'il maîtrise le mieux. Voilà, Jean-Louis Salzman.
C'est très exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et il ne faut pas se tromper de débat. Il y a un débat budgétaire qui est un débat franco-français, mais il y a un débat international qui est une compétition féroce pour attirer les meilleurs étudiants du monde. Et ce n'est pas en se fermant des portes qu'on y arrivera.
Ah oui, mais alors donc, comment on fait pour réinjecter de la qualité dans les universités françaises qui sont à l'os quand même
en termes
de budget? Attendez,
le rayonnement des universités françaises est excellent. C'est vrai qu'on a des problèmes budgétaires, mais le débat n'est pas sur les problèmes budgétaires aujourd'hui, c'est sur l'attractivité des universités françaises.
Sauf que si ça rapporte 850 millions d'euros, c'est de frais d'université.
Je voulais...
C'est rien, c'est une goutte d'eau dans un océan de
besoins.
C'est
pas ça que je dis. Je dis d'abord, quand vous avez cité l'exemple anglais, j'ai pas voulu vous le dire à ce moment-là, mais je vous le dis maintenant.
Allez-y.
Quand ils ont augmenté les frais d'inscription, il y a 3-4 ans, ils ont eu une très forte baisse de l'arrivée des étudiants. Et ce n'est qu'après que ça a remonté.
80% de chute aussi en Suède, après la
hausse des frais. Et donc,
aujourd'hui, n'a pas tout à fait les mêmes atouts que la France.
Aujourd'hui, ce qui manque aux universités en termes d'étudiants, c'est d'attirer les meilleurs étudiants, de continuer à attirer les meilleurs étudiants du monde. Et pour l'économie française, c'est d'avoir des ambassadeurs de la France, formés en France et qui permettront notamment à nos entreprises de pouvoir avoir directement des correspondants sur place.
On prend un auditeur qui nous appelle au 33 84 22 71 71. Mariam, bonjour, vous êtes à Cotonou, au Bénin.
Bonjour Emmanuel.
Mariam, vous êtes étudiante à l'université de Cotonou, c'est bien cela?
Non, dans une université privée à Aix-Juste.
Ah d'accord. Et vous souhaiteriez venir étudier en France?
Oui, effectivement. Et je disais que ma mère, depuis l'année dernière, elle me disait quand j'aurai le bac, elle préférait que j'aille continuer mes études universitaires en France. Au début, je ne voulais pas, je lui disais que non. Bon, après, elle a fini par me convaincre, soi-disant, que ce serait facile, car j'ai la famille qui vit en France, et qu'après l'obtention de mes diplômes, du retour au pays, si je veux, j'aurai rapidement un emploi. Et vu que les frais d'augmentation concernant pour les étudiants non européens, je disais que j'abandonnerais.
Si la France venait à augmenter ses frais d'inscription pour les étudiants non européens. Très bien, merci Mariam.
Je voudrais dire à Mariam que ce n'est pas facile. C'est vraiment très difficile de faire des études supérieures quand on sort du lycée. Et c'est d'autant plus difficile qu'on est obligé de s'adapter à un pays qui n'est pas son pays. Donc je voudrais lui dire de faire attention. Et les conditions d'études dans un autre pays, déjà les études supérieures c'est difficile, mais dans un autre pays c'est très difficile.
Finalement, l'augmentation des frais pour les étudiants européens, ça va finir par passer ou pas? C'est inéluctable? Quel est votre point de vue, tous les trois?
Moi, je pense que politiquement, ça ne peut pas passer en France aujourd'hui, vu le modèle social français.
Et oui.
Moi, je pense que c'est tout à fait possible. La preuve, certains établissements publics l'ont fait. Je pense que par contre, il faut laisser une large autonomie aux établissements pour en décider. Je sais que la conférence des présidents d'université défend l'autonomie des universités. Des décisions ont été prises par le passé dans ce sens-là. Je pense que il est tout à fait normal de donner la possibilité aux établissements de fixer leurs tarifs. Et je pense qu'il y a, en tout cas, à la conférence des grandes écoles, de nombreux établissements qui souhaiteraient augmenter les droits de scolarité pour les non-européens, moyennant, et je le répète, je suis vraiment désolé de me répéter, mais moyennant une politique de bourse renforcée, qu'une partie de cet argent soit réaffectée.
Tout le monde sait que de toute façon, les bourses ne couvrent pas les besoins de ceux qui ont été éjectés par l'augmentation des frais.
Tous les étudiants n'ont pas le même pouvoir d'achat.
Antoine Grassin, Campus France, alors vous...
Je crois que Jean-Louis Fassman, tout en disant qu'il estime que ce n'est pas possible, a tout de même laissé entrouverte une porte montrant que c'était quand même possible dans certaines conditions, lorsqu'il dit que ça doit correspondre à une amélioration de service. Et donc, je crois que
facturer des services spécifiques pour les étudiants
qui
étrangers.
Soit les facturer, soit
ça
augmenter.
Serait mettre un doigt de pied dans la porte, c'est ça?
Alors,
finalement,
je pense il y a deux choses en fait qu'il faut avoir à l'esprit. D'une part, on peut faire une augmentation à condition d'avoir quelque chose en regard, meilleur service. L'autre point, je crois, et je voudrais le dire, c'est je suis pas certain qu'on, si on fait cette augmentation, qu'on pourra longtemps tenir de ne pas augmenter les frais de scolarité pour les autres Européens.
Oui. Alors justement, ça c'est le débat suprêmement tabou en France depuis des années, l'augmentation des frais des uns, quand on voit qu'une année de licence est à quoi, moins de 300 euros à l'heure actuelle, Jean-Louis Sazman.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut continuer longtemps comme ça?
Je pense qu'à 11h57, il n'est pas
temps
de lancer ce débat.
Effectivement. Non, mais très honnêtement, si on augmente augmenter les tarifs pour les étudiants non européens, ça veut dire que l'étape suivante, c'est ça ? Non ?
Nous, on l'a fait en même temps. Simplement, on ne l'a pas fait dans les mêmes proportions pour les étudiants européens et pour les étudiants non européens. Mmh. En vertu de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est à l'origine du financement de nos établissements qui est à peu près aux deux tiers, voire aux trois quarts publics.
Il nous reste encore une minute pour votre malchance, Jean-Loup Salzmann. Il y a quand même quelques années, il y a un rapport qui a été rédigé par des experts proches du Parti Socialiste qui avait ouvertement prôné cette solution pour sortir les universités de l'appauvrissement. Preuve que, à gauche comme à droite, la question mérite d'être posée, non ?
Écoutez, je ne suis pas comptable de ce que des experts proches du Parti Socialiste peuvent dire. Ce que je peux vous dire, c'est la position quasi unanime de la Conférence des présidents d'université.
Qui ne veulent pas une marée humaine dans la rue demain.
Pas du tout, pas du tout. C'est pas ça le problème. Je l'ai dit tout à l'heure, la réglementation nous permet aujourd'hui de fournir des services supplémentaires pour des prix supplémentaires, à condition qu'ils soient facultatifs. Et je ne vois pas au nom de quoi on ferait payer plus cher à quelqu'un au motif que il a une origine sociale ou géographique différente.
Il nous reste quelques secondes. Une réaction au départ de la ministre déléguée à l'enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, qui quitte le gouvernement pour raison de santé. Donc c'est Najat Vallaud-Belkacem qui reprend, qui avait déjà la tutelle sur ce dossier-là de l'enseignement supérieur. Mais vous souhaiteriez, dans l'hypothèse d'un remaniement après les élections départementales, à nouveau d'un ministre de l'enseignement supérieur à part entière ou pas, Jean-Loup Salzmann ?
Alors d'abord, je veux dire bon rétablissement à Geneviève Fioraso. J'ai trouvé que c'était extrêmement triste qu'un ministre soit obligé de quitter le gouvernement pour des raisons de santé. Et en tant que médecin, je ne peux que lui renouveler mes sentiments de rétablissement.
Sur la suite,
la position de la Conférence des présidents d'université, c'est évidemment un ministre de plein exercice pour l'enseignement supérieur et la recherche.
Yves Poilane pour les grandes écoles. Vous voulez un vrai ministre ?
Évidemment, un vrai ministre. Vous savez, il y avait quelqu'un qui disait...
Le dossier est assez lourd, hein, c'est vrai.
Le dossier est lourd, mais non. Puis quelqu'un a dit un jour, si vous pensez que l'enseignement coûte cher, essayez l'ignorance. Je pense qu'effectivement, on n'investit jamais assez dans l'enseignement supérieur.
Merci à tous les trois. Ça sera le mot de la fin. On rend l'antenne pour le journal. Demain, on parlera des jeux vidéo. Sont-ils moraux ?